à Rencontre spirituelle. Aujourd'hui, je compte vous parler de Marie-Louise Trichet. C'est la fondatrice des Filles de la Sagesse. C'est une congrégation extrêmement intéressante qu'elle a fondée avec Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Il y a une école Marie-Louise Trichet à Montréal, dans l'Est, où on m'a déjà invité à parler aux jeunes filles. Ce sont que des filles qu'il y a dans cette école et c'est vraiment merveilleux. J'ai rencontré là des jeunes filles remarquables, vraiment très sympathiques, qui ont été très gentilles à mon égard. J'ai beaucoup aimé. Et ça a été une première rencontre, on peut dire, avec Marie-Louise Trichet. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est aujourd'hui aussi la fête de Sainte Gisèle, reine de Hongrie, qui est décédée en 1060. C'était la sœur de Saint Henri, l'empereur d'Allemagne, qui est fêtée, lui, le 13 juillet. Elle était l'épouse, imaginez, de Saint Étienne, roi de Hongrie, qui est fêtée, lui, le 16 août. Et elle est devenue veuve en 1038. Puis elle s'est retirée dans sa Bavière natale, en Allemagne aujourd'hui, dans une abbaye, l'abbaye de Niederbourg. Et voilà que cette femme était entourée de saints. Voici maintenant la vie de Marie-Louise Trichet, qui est née à Poitiers, en France, en 1684, le 7 mai. Elle est accueillie au sein d'une famille heureuse qui va compter 8 enfants. Mais vous verrez, c'était terrible pour elle parce qu'elle a perdu plusieurs de ses frères et sœurs. Elle est la 4e en plein centre de la famille. Elle reçoit au fil des années une bonne éducation morale solide qui est traversée par une foi chrétienne profonde. C'est une famille vraiment chrétienne. Une vie chrétienne vécue aussi, puis éprouvée. La famille Trichet appartient à une espèce de bourgeoisie aristocrate. Cette classe de la société qui a surgi en France au déclin du grand siècle, du 17e siècle. Une famille dont l'aisance financière est cependant assez vite menacée. C'est une famille sur laquelle plane toujours une espèce d'insécurité, et qui vit des déracinements, des ruptures, une famille qui souffre toutes sortes d'épreuves. Les parents, Julien Trichet et Françoise Lecoq, se sont unis par les liens du mariage le 2 août 1678 à Poitiers, à l'église Saint-Germain. Julien Trichet, lui, c'est le fils d'un sergent royal, huissier au tribunal. Au terme de ses études, ses parents lui avaient obtenu une charge de procureur. C'est un homme juste. On a des portraits de lui, un visage plein, il a l'air indulgent, souriant. Il a des yeux illuminés d'une expression de bonté. Un regard qui sans doute a dû réjouir sa fille Marie-Louise, qui a été son enfant préféré. Françoise Lecoq, Madame Trichet, est une jeune fille d'origine normande. Elle a un visage allongé. Elle a les sourcils, d'après le portrait qu'on a, assez bien dessinés. Hein? C'est des tableaux. Elle a des lèvres fermes, minces. On voit pas de sourire dans cette figure-là. Elle a un caractère volontaire, sans doute nerveux, passionné, généreux même. C'est sans doute une mère qui lutte pour protéger ses enfants. On sait qu'elle a entouré ses enfants d'ailleurs de beaucoup d'affection. Et c'était une mère très aimée de Marie-Louise. Marie-Louise Trichet dira que Dieu seul a pu les séparer. Alors ses parents, très attentifs, l'un et l'autre, à leurs enfants, ne portent pas le même regard sur leur troisième fille. Madame Trichet, elle, manifeste un peu d'impatience. Elle trouve que le comportement de Marie-Louise est trop discret, trop réservé. Elle s'inquiète de cette attitude qui manque de personnalité. Elle la voudrait plus enjouée. Hein? Elle dit un jour, qu'est-ce que nous allons faire de cette fille-là? Elle est plutôt stupide. Elle ne sait que sourire. Et pourtant, les yeux de Marie-Louise, silencieuse, apaise la nervosité de sa mère. C'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'elle raconte elle-même dans sa vie. Hein. Monsieur Trichet, lui, il reconnaît les valeurs cachées dans sa fille, qui a peut-être une apparence un petit peu insignifiante, mais vous verrez, hein, elle n'est pas insignifiante du tout. Et Monsieur Trichet calme sa femme par des paroles qui vont se révéler plutôt prophétiques. Vous savez que ces couples, comme bien des couples maintenant en France encore, aujourd'hui se vouvoient. Alors il lui dit, non, non, mon épouse, vous vous trompez et Dieu en fera de grandes choses. C'est les textes historiques. Qu'il l'ait vraiment dit, on ne sait pas. Marie-Louise Trichet, fondatrice, je vous le rappelle, des Filles de la Sagesse, est d'une constitution robuste. C'est un visage au teint clair, encadré de cheveux blonds, qui rappelle celui de son père. Tout du remarquable, hein, par la sérénité de leur regard, elle a des manières agréables qui vont révéler sa grande délicatesse. C'est une enfant silencieuse, d'accord, réservée, effacée, mais elle est déterminée, c'est une petite fille qui coûte beaucoup aussi. Elle serait d'ailleurs une adolescente plutôt charmante, avec une personnalité empreinte de gentillesse, de fermeté aussi. Elle se distingue d'ailleurs par une note caractéristique de, on pourrait dire, de simplicité. Elle est d'une franchise. Une franchise parfois un petit peu brusque, mais c'est atténué, hein? Parce qu'elle est quand même, elle a une belle sensibilité. Elle a une grande douceur. Puis, elle est assez attrayante. Elle a un cœur droit, accueillant. On dit d'elle qu'elle avait un esprit juste, mesuré. Elle possédait une intelligence concrète. Et puis, très jeune d'ailleurs, elle avait déjà une capacité peu commune d'attention aux autres. Hein. Elle se tient quand même à l'écart et elle préfère s'occuper des malheureux. Alors, elle refuse les réunions de plaisir de la jeunesse. Ça ne l'attire pas. Elle s'enferme plutôt dans le travail, l'étude, la prière. Mais par contre, elle prend une part active à la vie familiale et elle va surtout à la rencontre de la misère. Hein. Elle devient l'amie des pauvres de Poitiers, très jeune. C'est surprenant, extraordinaire même. Marie-Louise Trichet, c'est une espèce de jeune fille, on dirait, claire, lumineuse, quand on la connaît bien. Elle est donc prête à entendre un appel. Elle est disponible à Dieu. Sa vocation va mûrir dans le silence, la contemplation, dans l'attente et le désir, puis aussi dans le service des plus pauvres, des humbles. Alors, on pourrait s'arrêter peut-être quelques instants pour faire connaissance de ses frères et sœurs, puisqu'ils étaient 8 enfants. Hein? Jeanne est l'aînée de la famille. À 13 ans, elle est frappée de paralysie. 13 ans, paralysée. Et c'est auprès d'elle que Marie-Louise Trichet apprend la compassion, toute jeune. Sa sœur aînée, Jeanne, donc, meurt à 24 ans, en 1704. Julien, le fils aîné, lui, qui est le même nom que son père, va suivre les traces de son père, d'ailleurs. Il va épouser une dame des vignes de la plancherie. Il sera le seul à donner des héritiers à la famille Trichet. Élisabeth, qui est un enfant caractère heureux, qui est l'âme sœur de Marie-Louise, c'est celle avec qui elle allait à la messe chaque matin. C'est un cœur à qui elle a donné toute son affection, d'ailleurs, et avec qui elle partageait des aspirations spirituelles. Mais elle meurt à 27 ans, en 1710. Et cette mort va plonger Marie-Louise dans un profond désarroi. Il y a aussi Thérèse, sa sœur la plus proche d'âge, qui meurt à 8 ans, loin des siens, en 1693. Imaginez, que de morts, hein, c'est terrible. Et Alexis, le jeune frère, a choisi Marie-Louise comme confidente. Il lui dit, « Il faut, ma chère sœur, que vous soyez une scolastique et moi un Benoît. » Vous connaissez la vie de Saint-Scolastique, peut-être, qu'on fête le 10 février. Et moi, un Benoît, le 21 mars et le 11 juillet. Benoît, qui est le fondateur évidemment des bénédictins, et Scolastique, la fondatrice des bénédictins. Alors il lui dit, il faut ma chère sœur que vous soyez une Scolastique et moi un Benoît. Il y a des tas de projets, tout jeune. Hein. Alors en 1708, il est séminariste. Il est choisi par l'évêque de Poitiers pour enseigner dans des écoles de charité. Alors c'est pour Marie-Louise un réconfort. Hein. Elle l'aime beaucoup, son frère, dans une période où elle se sent seule. Et puis, en 1710, il est ordonné prêtre, son frère. 2 ans plus tard, il y a 400 prisonniers de guerre qui sont détenus dans un hôpital, l'hôpital Deschamps, qui est hors de la ville de Poitiers. Mais la peste fait des victimes. Alors Alexis, tout jeune prêtre, à 26 ans, il s'offre comme volontaire pour s'occuper de ses pestiférés, puis il meurt là, sans qu'aucun des siens puisse l'accompagner. Lors des funérailles, parce qu'il est mort de la peste. Marie-Louise envie finalement le sort de son frère, qui a connu en somme le martyr, qui a donné sa vie par amour. Hein. Elle a aussi un frère, Claude, petit frère, bien oui, qui meurt lui aussi, en 1691, quelques mois seulement après sa naissance. Et enfin, il y a Françoise-Élisabeth, la dernière enfant, la 8e de la famille Trichet, qui, elle, va suivre Marie-Louise Trichet. Elle se fera fille de la sagesse, comme Marie-Louise qui va les fonder avec Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort, comme je vous ai dit au début de l'émission. Marie-Louise est quand même une petite fille au cœur transparent, hein, qui est capable de faire des choses un peu surprenantes. Oui, elle fait l'école buissonnière. Ben oui, comme on dit aujourd'hui, elle foxe l'école. Je pense pas qu'elle l'ait fait souvent. On raconte qu'un jour, comme chaque matin, eh bien Marie-Louise Trichet se rend à l'école des religieuses, et puis là, la sœur chargée de l'accueil manifeste une espèce de mauvaise humeur. Ça déplaît à Marie-Louise, qui n'aime pas ça du tout. Elle n'est pas habituée à ça chez elle. Alors, elle refuse l'école, elle part, elle rentre à la maison, puis finalement, elle décide de faire de sa journée quelque chose d'un peu particulier, s'en va vers Poitiers, qui est tout près, la ville de Poitiers. Et au cours de cette matinée, qui est très belle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle visite les églises de la ville. Et à Notre-Dame-la-Grande, peut-être que vous connaissez cette église, c'est une église romane où il y a beaucoup de sculptures, mais c'est pas tellement grand, Notre-Dame-la-Grande, c'est surprenant. Alors elle va au pied de la statue de la Madone, puis elle s'agenouille. Elle prie. Et il y a un déclic en elle. Alors, finalement, elle se demande pourquoi aller à l'école quand on peut avoir un maître à la maison, parce qu'elle appartient à une famille quand même qui est à l'aise. Mais elle veut aller à l'école des sœurs, ce qui lui fait faire chaque jour un long trajet à pied. On pourrait dire qu'elle a déjà compris que le milieu familial n'est qu'un lieu de passage avant d'aller plus loin. Elle sait ce qu'elle veut et où elle s'en va. Alors, à l'école Notre-Dame, rue des Basse-Treilles, fondée par Sainte-Jeanne de l'Estonac, je vous en ai parlé en mai 95, Marie-Louise reçoit la formation qu'une adolescente, là, comme on dit, une adolescente de condition, là, disons, d'une famille bourgeoise, assez à l'aise, ne devait posséder au XVIIe siècle. Et d'autre part, Marie-Louise, elle parcourt de plus en plus souvent le chemin qui mène de la maison paternelle à l'hôpital. Elle y prend conscience de ce que représente la prière dans la chapelle des pauvres. Une prière qui voudrait bien, on pourrait dire, être un grand cri d'adoration, mais ça arrive, hein, que ça devient plutôt des insultes, des blasphèmes, des gens qui refusent leur maladie, qui sont pas capable d'accepter de cette souffrance abominable. Et Marie-Louise Trichet médite tout ça. Elle vit ça dans son cœur. Elle n'en parle pas à son père. Pourtant, il aurait su la comprendre. Par contre, elle se risque à se confier à un prêtre qui, lui, est plutôt montré du doigt pour ses extravagances, ses singularités. C'est Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort. Une tenante richesse spirituelle la fait vivre au creux d'elle-même. Elle saisit l'invisible à travers le sensible. La maladie et la mort qui frappent souvent la famille Trichet lui font découvrir le poids de la souffrance. Elle apprend à vivre dans la contemplation des mystères douloureux de la vie de Jésus. Marie-Louise sera un jour appelée la bonne mère Jésus par les pauvres eux-mêmes. C'est donc quelqu'un de très important qui surgit dans sa vie. Elle va rencontrer Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, vraiment. Alors, qui est-il? Mais Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est né en Bretagne, à Montfort-sur-Meu, le 31 janvier 1673, il a partagé une existence difficile avec les siens. Il a vu pleurer sa mère. Il a vu aussi son père, très soucieux. Il a un tempérament impétueux, Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est un tempérament fort, on dirait un tempérament même rugueux. Il possède l'imagination, la ténacité, une espèce de folie de l'action, puis le don des amitiés rares mais profondes, et surtout le goût de Dieu. Le sol lui brûle les pieds sur la terre natale. Il rêve de s'enfuir vers une contrée au loin, une contrée inconnue, où il gagnera son pain, la sueur de son front, en prenant pour compagne une pauvreté qui serait joyeuse. Or, à Rennes, en Bretagne, là, tout près, il rencontre les pauvres de l'hôpital, puis il découvre Dieu en eux. Oui, il découvre Dieu dans les pauvres de l'hôpital. À l'église, il mûrit dans le silence, puis la prière. Il mûrit son avenir, une inspiration qui l'habite. Un jour d'automne, il quitte la ville de Rennes, où il a terminé ses études chez les Jésuites, puis il se rend à Paris, au grand séminaire de Saint-Sulpice. Et à quelques lieues, peut-être une lieue de Rennes, ben notre jeune Grignon de Montfort, qui est noble, échange ses vêtements contre les haillons d'un mendiant, imaginez. En juin 1700, à 27 ans, Louis-Marie Grignon de Montfort reçoit l'ordination sacerdotale. Il va vivre un drame intérieur au sujet du choix d'un ministère apostolique. Là, il voudrait servir les plus pauvres, les exclus, les marginaux. Il voudrait parcourir les villages pour annoncer l'Évangile aux gens là, des campagnes. Il voudrait se consacrer totalement à la contemplation. Il voudrait se laisser consumer par l'amour de la sagesse éternelle. La sagesse éternelle incarnée, crucifiée, Jésus. Il voudrait rassembler une petite compagnie. Une petite compagnie pauvre, de bons prêtres, pour rénover profondément l'Église, puis sanctifier le monde par la nouveauté de l'Esprit-Saint. Ce seront les Montfortins, comme on les connaît ici, au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Alors, quoi faire? Mais d'une manière inattendue, le plus pauvre des prêtres, on pourrait dire, entre en relation avec Madame de Montespan. Oui, Madame de Montespan, qui croit en lui, puis qui veut l'aider. Alors, elle lui écrit une lettre de présentation, puis elle l'invite à se rendre près de l'évêque de Poitiers pour lui faire part de son désir d'évangéliser les pauvres. Élisabeth Trichet, la jeune sœur de Marie-Louise, qui est l'ange de la maison, elle vient d'entendre un sermon à l'église. Elle rentre bouleversée, puis elle dit à Marie-Louise, « Oh, ma sœur, si tu savais quel beau sermon je viens d'entendre. » Alors, le prédicateur, c'est un saint. Elle dit, « Qui est-ce que c'est? » Elle dit, « C'est un prêtre qui, depuis quelque temps, est au moyen à l'hôpital. » Alors, Marie-Louise n'ajoute rien, mais elle a déjà décidé dans son cœur qu'elle irait se confesser à ce prêtre. C'est comme ça qu'elle le rencontre. Et Marie-Louise se rend confessionnelle du père de Montfort. « Ma fille qui vous a envoyé à moi. » Elle dit, « Monsieur, c'est ma sœur. » Alors elle lui dit, « Non, non, ma fille, ce n'est point votre sœur qui vous a dit de venir ici. C'est la Sainte Vierge qui vous a envoyé vous confesser à moi. » Un audacieux. Marie-Louise a désormais discerné, là, elle voit, puis elle a choisi, puis elle s'abandonne à ce prêtre étrange, à ce contemplatif, à ce mystique, à cette espèce de fou de Montfort dont on parle dans toute la ville. Alors, il y a un itinéraire mystique qui va unir leur destinée. Dieu seul. Leur désir passionné de la sagesse de Jésus va lier leur fraternité, leur recherche commune là, pour les saints, les humbles, va les entraîner ensemble sur les voies de la miséricorde, puis leur demander les plus hautes exigences quant à la qualité de l'amour. Alors, face au génie spirituel de Louis-Marie Grignon de Montfort, Eh bien, Marie-Louise Trichet, elle va exercer une espèce de force silencieuse, une force sereine, qui manifeste ce qu'elle a de singulier, en même temps que toute la disponibilité de son être. Elle se livre à ce maître. Elle franchit le parcours qu'il lui trace. Elle a en elle les ressources spirituelles qui lui permettent de marcher sans se laisser aller au hasard des circonstances. Elle ne s'occupe pas de ses états d'âme. Louis-Marie Grillon-Montfort va entreprendre avec hardiesse la formation à l'humilité de Marie-Louise. Un jour, il réunit quelques personnes pour une retraite à la chapelle de l'hôpital. Marie-Louise est du nombre. Alors il demande quelqu'un pour faire la lecture à haute voix pendant le repas et spontanément, avec la franchise de son caractère, elle s'avance. Alors satisfait intérieurement, Louis-Marie le renvoie cependant, lui reprochant ce mouvement d'orgueil. Il veut la scruter, il veut voir sa réaction. Alors il la voit retourner à sa place, finir son repas comme si de rien n'était. Alors au terme de ces journées, vécues à la lumière de l'esprit, elle découvre avec clarté son propre chemin. Le choix de la vie religieuse s'affirme et se précise. Une parole mystérieuse et impénétrable va lui être dite par mon fils. Vous serez religieuse, dit-il. Ne vous préoccupez pas. Vous serez religieuse. Mais un silence prolongé de ce prêtre va désorienter cette toute jeune fille. Et c'est une véritable épreuve pour sa sensibilité. Aussi, donc, elle le relance. Vous avez tant de zèle pour placer des filles dans des communautés et pour parler de leur vocation, Monseigneur. Je suis la seule à qui vous ne pensiez pas. Alors il répond, Dieu seul. Et il ajoute, consolez-vous, ma fille. Vous serez religieuse. Alors, à l'été de 1702, Louis-Marie de Montfort quitte l'hôpital de Poitiers pour Paris afin de venir en aide à sa sœur qui veut entrer dans un cloître. Son départ est une désillusion pour Marie-Louise qui a 18 ans. Une seule voie s'ouvre devant elle, entrer dans un monastère. Alors elle choisit les chanoinesses de Saint-Augustin à Châtellerault. C'est près de l'abbaye de Bellefontaine, ça, Châtellerault. L'abbaye qui a fondé la Trappe d'Occam, elle y tombe malade. Madame Trichet s'informe des conditions de vie de sa fille et la reprend. Marie-Louise ne pose aucune résistance. Et ce n'est pas là que Dieu l'a vue. Il se passe des choses à l'hôpital de Poitiers. Les pauvres ressentent cruellement un manque de, d'attention, de tendresse à leur égard. Alors l'évêque réclame le père de Montfort et celui-ci, qui a vécu une espèce de déception à Paris, où il a rencontré des communautés religieuses qui sont plutôt liées au conformisme social et puis qui oublient les pauvres, bien, il accepte de retourner à l'hôpital. Alors Louis-Marie Grignon de Montfort va tenter de fonder une communauté religieuse à l'hôpital de Poitiers. Il a bien vu que la grande inertie spirituelle des gouvernantes de l'hôpital fait regretter l'absence d'une congrégation religieuse. Congrégation religieuse solide, au service des pauvres. Alors il fait appel aux filles de la bourgeoisie. Mais elle décline l'invitation. Ça ne l'étonne pas. Louis-Marie rassemble donc une vingtaine de femmes choisies parmi, on pourrait dire, les moins jolies, quoi. Il y a même des débiles, des boiteuses, des aveugles. Il les demande à entrer. On pourrait dire, comme dans la parabole de l'Évangile, dans la salle du banquet. Vous vous souvenez cette parabole où tout le monde est invité au banquet? Et finalement, ils vont chercher des gens dans la rue. Alors, ils les invitent, ces femmes-là, pour participer au repas des préférés de Dieu. C'est tout à fait comme dans l'Évangile. Alors, il installe ce groupe dans un petit local de l'hôpital. Il donne le nom à ce groupe de sagesse. Puis, il y plante une grande croix pour rappeler que leur vie, c'est une folie aux yeux du monde. Et cette communauté ne survivra que quelques mois, évidemment. Trop, c'est trop. Il a exagéré. Et Marie-Louise, elle attend toujours. Alors un matin, dès l'aube, Marie-Louise Trichet sort de la maison paternelle et se dirige vers la chapelle de l'hôpital. Il a la messe achevée. Elle affronte Louis-Marie d'un regard direct. Elle lui renouvelle sa demande d'être religieuse. Alors il lui dit, « Eh bien, allez demeurer à l'hôpital. » Et après quelques jours de réflexion, l'idée s'impose à l'esprit de la jeune fille d'une façon claire, forte et attirante. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Eh bien voilà, je vais habiter avec les pauvres. Et là, c'est la décision, ça va être le début. Louis-Marie, fou de joie, manifeste quand même une espèce de prudence réservée. Et c'est chez lui un peu inhabituel, parce que vous avez vu comme il était assez original. Alors il laisse Marie-Louise seule pour mettre à exécution son projet. Puis alors là, elle va trouver l'évêque de Poitiers. Puis l'évêque fait une démarche auprès des administrateurs de l'hôpital, mais il reçoit une réponse négative. Et avec une merveilleuse simplicité, Marie-Louise insiste. « Eh bien, Monseigneur, ces messieurs ne veulent pas me recevoir comme gouvernant. Peut-être qu'ils ne me refuseraient pas en qualité de pauvre. Et si vous voulez bien, par bonté pour moi, me charger d'une lettre de votre part, je suis sûr que j'y entrerai. » Alors l'évêque, stupéfait, encourage ce qu'on pourrait appeler la fille du père de Montfort. Puis, c'est là que la vocation de cette fille se dessine, une grande vocation, riche de promesses. Alors pour la seconde fois, Marie-Louise Trichet va quitter la maison paternelle. L'hôpital va devenir, on pourrait dire, son cloître. Ça va devenir le cadre de son amour pour les pauvres. Et les administrateurs de l'hôpital essaient de lui créer un poste, mais Montfort s'y oppose. Il lui offre plutôt la communauté des filles de la sagesse qu'il veut fonder. Alors la jeune novice qui a fait le choix d'une vie cachée, méprisée, elle voit par des chemins imprévisibles auxquels elle ne s'attendait vraiment pas, là, elle voit que son rêve va se réaliser. Le 2 février 1703, bien Marie-Louise Trichet, 18 ans, revêt l'habit gris, couleur de cendre, qui sera celui des sœurs de la sagesse. Je me souviens quand elle le portait, on était toujours impressionnés quand on les voyait avec cette grande coiffe blanche. Et ce même jour, elle aimait, en privé, les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Elle reçoit le nom de sœur Marie-Louise de Jésus. Et tout naturellement, ben, le père de Montfort demande à cette jeune religieuse, qui porte l'habit des pauvres, d'aller faire un tour en ville. Il a trouvé là une manière assez radicale pour libérer cette toute jeune fille du respect humain, bien normal, hein. Et pour développer en elle aussi une espèce de spontanéité naturelle qu'il aime bien. Marie-Louise, elle n'a pour choix que d'obéir, mais elle est la fille quand même du procureur Trichet, une jeune fille de très bonne famille, comme on disait. Alors elle va aller se promener avec ce vêtement des pauvres. Et Marie-Louise Trichet apprend à être la servante de tous. Elle pratique une pénitence qui va parfois jusqu'à l'excès. Ça arrive souvent, ça, hein? Dans les vies des saints, surtout à cette époque. Elle vit la passion du don de soi de façon transparente et docile aussi, mais avec une belle simplicité, puis elle abandonne tout pour acquérir le seul trésor du Christ, sagesse. En 1703, pour la seconde fois, bien Louis-Marie et Grignon de Montfort quittent Poitiers. La population en a assez de ses comportements un peu excessifs. Puis à l'hôpital, la situation est devenue plus ou moins insoutenable. L'aumônier donc demande conseil à l'évêque, son confesseur. Enfin, c'est à Marie-Louise qui s'en remet, dans une démarche de confiance à elle, qui connaît les peines puis les difficultés qui l'accablent. Et sans hésiter, comme si la question ne la concernait pas, mais elle a beaucoup de chagrin, elle conseille à Louis-Marie Grignon-Montfort de partir. Il reconnaît qu'elle a raison. Il dit « Je suivrai votre conseil ». Et à l'heure du départ, il lui recommande, « Ma fille, ne sortez pas de cette maison. » Pendant 10 ans, quand l'établissement des filles de la sagesse ne se ferait qu'au bout de ce terme, Dieu serait satisfait. Et ses desseins sur vous se seraient accomplis. Alors Marie-Louise reste donc à l'hôpital. Elle est fidèle au « oui » qu'elle a prononcé intérieurement. Elle habite gris, à l'amour des pauvres. Alors le père de Montfort s'éloigne parce que l'Esprit Saint lui dit de partir, mais l'obéissance exige d'elle de demeurer. Elle goûte l'amertume, tandis qu'une grâce une grâce extraordinaire, très douce, murmure Dieu seul. Dieu seul, elle entend ce murmure. Et pendant des années, ben Marie-Louise Trichet va se sentir comme abandonnée de Louis-Marie Guignon de Montfort. Elle se sent très seule. Elle avance dans un chemin dépourvu de repères. C'est comme s'il faisait noir, si elle était devenue aveugle. Et Marie-Louise Trichet éprouve le vertige, la tentation. Elle craint de manquer sa vocation. Et ce passage vérifie sa confiance en la fidélité de Dieu. Elle vit une authentique nuit de l'esprit. Comme l'épouse qui cherche son aimé dans la nuit sombre et ne trouve personne qui lui indique ou fixe sa demeure avec lui. Vous connaissez ce vieux texte. Alors, en 1713, à 29 ans, Marie-Louise croit devoir prendre l'initiative de son propre avenir. Puis là, elle pense aux sœurs de Saint-Vincent de Paul. Ensuite, aux bénédictines du Calvaire. Elle fait une démarche au Carmel. Des refus éprouvent et puis libère à la fois sa conscience. Elle hésite. Alors Louis-Marie Guignon de Montfort, consulté par lettre, lui adresse une brève réponse. Il dit, « Ma fille, la providence de Dieu vient de placer tout nouvellement une pauvre fille. Ces moments ne sont point encore arrivés pour vous, mais attendez-les avec patience et demeurez à l'hôpital. » Alors, du fond de son épreuve, bien Marie-Louise Trichet gardait les yeux sur le Christ crucifié. Elle s'est livrée dans un total abandon à la certitude que Dieu l'appelle. Et dans son désert, il y a la paix de Dieu. Et en ce temps de pauvreté et d'espérance, elle sent mûrir longuement le germe de la congrégation des filles de la sagesse. C'est comme une résurrection qu'elle voit, qu'elle sent en elle. Quelques années plus tard, Louis-Marie de Montfort, Grignon de Montfort, fait une apparition éclair à l'hôpital de Poitiers. Il est très fatigué, il est très changé, ses traits, son regard, révèle transformation intérieure. Son âme de saint est beaucoup plus, comme on pourrait dire, visible. Il avait laissé une jeune fille, d'ailleurs, d'une extrême générosité, puis il retrouve une femme accomplie, qui a pratiqué le don de soi. Ça l'a rendue rayonnante. Hein? Et les longues années de séparation puis de silence n'ont rien changé entre ces deux êtres. Leur communion de cœur est restée intacte, intense aussi. Et Louis-Marie Grignon de Montfort laisse entrevoir à Marie-Louise Trichet une terre promise. Qu'est-ce que ce serait cette terre promise? C'est la ville de La Rochelle, d'où nos ancêtres partaient pour venir ici au Canada. Il a trouvé dans ce diocèse un évêque compréhensif, qui songe à la fondation d'écoles de charité, des écoles pour aider les enfants pauvres, une œuvre de promotion humaine. Et ça plaît à Grignon de Montfort. Et quand sera venu le moment, il va appeler Marie-Louise. Alors, les paroles du père de Montfort provoquent une sorte de sentiment dans le cœur de Marie-Louise. Elle craint de quitter Poitiers. Et puis, elle se demande ce que les gens vont penser. Puis tous ses amours sont là. Mais à La Rochelle, sœur Marie-Louise Trichet, avec ses premières sœurs, va vivre une extrême pauvreté, une totale insécurité. Elles n'ont pas de maison, le pain quotidien n'est même pas assuré. Parfois, les filles de la sagesse remettent dans le buffet des écuelles qui sont restées vides, n'ont rien à manger. Bien plus tard, on entendra d'ailleurs la voix de Marie-Louise Trichet qui prononce ces paroles, « Je crains que le Seigneur retire ses bénédictions si je deviens riche. » Elle a connu la pauvreté, puis elle est tombée, comme on dit, en amour avec la pauvreté. L'évêque du lieu, Monseigneur de Chamflour, est d'emblée conquis par le charme, par l'intelligence et la simplicité de Marie-Louise Trichet. Elle reçoit de Grignon de Montfort l'investiture, on pourrait dire, de supérieur général des filles de la sagesse. Alors, les deux premières filles de la sagesse se rendent un bon matin au Petit Plessis, c'est une maison de campagne des Jésuites, et puis là, les attend le père de Montfort, à son retour de mission, et ensemble, ils vivent l'Eucharistie, puis ils se dirigent vers un ermitage de missionnaires, son ermitage de missionnaires. Ils parlent, les sœurs l'écoutent d'un cœur ardent, elles accueillent le message qui est particulièrement adressé à Marie-Louise. Il lui dit, « C'est vous, ma fille, que Dieu a choisi pour être à la tête de cette petite communauté qui ne fait que naître. C'est la volonté de Dieu qui l'a voulu ainsi. Il vous devez avoir beaucoup de fermeté. Mais la douceur doit l'emporter sur tout le reste. Alors voyez, ma fille, voyez cette poule qui a sous ses ailes ses petits poussins. Avec quelle attention elle en prend soin. Avec quelle bonté les affectionne. Eh bien, c'est ainsi. Oui, c'est ainsi que vous devez faire avec toutes les filles dont vous allez être désormais la mère. Alors le 28 avril 1716, Louis-Marie Grillon, Montfort, meurt, épuisé par les fatigues et les pénitences. Il meurt à Saint-Laurent-sur-Sèvre, où il est enseveli. Il faut aller voir ça, c'est une ville étonnante, petite ville magnifique dans un vallon. Il a 43 ans. Marie-Louise, elle, a 31 ans, presque 32. 40 ans plus tard, le souvenir de ce jour va encore lui faire verser des larmes. Elle reste seule pour assumer une œuvre que tous deux devaient assumer ensemble. Et cette jeune religieuse, bien, elle a le cœur blessé. Mais elle est courageuse et énergique, elle est passionnée aussi, elle est fidèle. Elle va donner vie à cette inspiration qui lui est venue. Un jour, d'ailleurs, Grignon-Montfort avait dit à Marie-Louise, « On vous rappellera à l'hôpital de Poitiers, vous y retournerez et vous y resterez. » Alors le 22 août 1715, quelques mois avant sa mort, Grignon-Montfort laisse échapper une parole en voyant laquelle Marie-Louise, parole de voyant, laquelle Marie-Louise va s'accrocher aux heures les plus sombres de son existence. Il lui dit, « Oh mes filles, que Dieu me fait connaître en cet instant de grandes choses. Oui, je vois, mes chères filles, dans le décret de Dieu, une pépinière de filles de la sagesse. » Alors, à la communauté de La Rochelle, s'est adjointe Marianne Bourdin, première et seule postulante depuis la mort de Louis-Marie en 1716. Et bien que les conditions là, soient plutôt difficiles pour vivre en communauté religieuse, bien la supérieure protège le recueillement de ses filles. Elle fait que la vie communautaire soit empreinte d'un bel esprit de partage, puis d'une grande chaleur fraternelle, puis de simplicité aussi. Alors, Sœur Trichet, elle porte en silence une interrogation qui l'inquiète. Comment continuer l'œuvre qui lui a été confiée par le père de Montfort? Or, pendant ce temps-là, tu vas de mal en pied à l'hôpital de Poitiers. Les administrateurs demandent le retour des filles de la sagesse. Ils offrent la possibilité même d'ouvrir un noviciat à l'hôpital. Alors, elles vont venir à Troyes. Et c'est comme ça que tout a débuté, vraiment. Mais de fait, le contrat proposé lierait plus ou moins la liberté de la congrégation. Alors, Marie-Louise, elle refuse. Elle laisse s'écrouler le rêve d'avoir trouvé une maison pour fonder, on peut dire, la congrégation des filles de la sagesse. Elle se sent bien pauvre. Mais Marie-Louise Trichet trouve quand même de précieux collaborateurs, puis un nouveau départ se prépare de Poitiers vers la Vendée. La Vendée. Il faut aller en Vendée, c'est quelque chose. Et en cette période, eh bien, Marie-Louise se révèle saisie d'un grand esprit d'aventure et elle fait fi de toute prudence au profit, là, de, on pourrait dire, d'une grande confiance. À son arrivée à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Marie-Louise Trichet va vivre l'heure la plus solitaire de son existence. À la tombée de la nuit, elle se retrouve dans une construction basse qui regroupe un ensemble d'anciennes petites masures ou de vieilles maisons habitées autrefois par des tisserands. Et la pièce est étroite et obscure. Il y a une odeur épouvantable d'humidité puis de moisie. Il n'y a pas de meubles, pas même un lit. À la lueur d'une chandelle, elle mange le pain des pauvres. Elle couche sur le parquet. Elle est forte de la force de Grillon de Montfort. Cette force qu'il a imprimée en elle, dans la confiance. Elle a goûté les premiers signes de la maison mère des filles de la sagesse, cette maison mère qui va naître. Sur la terre de Saint-Laurent-sur-Sèvre, alors les deux rameaux sont en croissance, hein, la compagnie de Marie, les Montfortins, puis la congrégation de la sagesse, les filles de la sagesse. Ça surgit d'un même charisme. Ces hommes, ces femmes sont séduits par la spiritualité de Louis-Marie Grillon de Montfort, Ils se reconnaissent mutuellement. Entre les ouvriers de la première heure sur le chantier de la sagesse, comme on dit, comme entre ceux qui les suivront, bien, il y a une véritable dynamique de fraternité qui s'établit entre eux. Et un abandon à la providence, un amour des pauvres, puis une grande audace évangélique aussi. Mais cependant, il faut pas cacher que la fondation a eu bien des oppositions. Ben oui, il y avait un monsieur Rougeau de la Jarrie, qui était doyen de Saint-Laurent, qui s'est montré extrêmement mesquin. Ben oui, un prêtre s'est montré mesquin, c'est dommage. Il s'est montré mesquin avec les premiers Montfortins. Mais en 1721 arrivent trois jeunes postulantes qui en précéderont beaucoup. Et Marie-Louise écrit dans ses souvenirs que la ferveur de ses filles adoucissait toutes les peines et toutes les croix qu'on lui faisait au dehors. Elle n'avait d'autres ambitions que de servir Dieu, ces filles-là, de l'aimer, de demeurer cachées aux yeux du monde. Et c'était vraiment des vocations comme ça qu'elle voulait. Alors Marie-Louise est fidèle à la règle écrite. Elle se tient éveillée devant la face de Dieu, comme elle dit. Elle implore le don de la sagesse. Elle est attentive aussi aux cris de l'humanité blessée. Elle est prête, oui, elle est prête à révéler à cette humanité l'incroyable tendresse de ce Dieu qui est plein de miséricorde. Elle parcourt l'ouest de la France, elle fonde des maisons, elle établit finalement, comme il faut, sa congrégation. La dernière, à la fin de l'année 1748, Marie-Louise rentre à Saint-Laurent, elle est vieillissante. C'est la dernière grande épreuve. Elle se situe en 1755 et 1757. Pour la première fois, Marie-Louise réalise que ce ne sera pas facile. Mais elle sent la nécessité de préparer l'avenir, de partager les responsabilités. Et puis, elle choisit une sœur pour l'aider. En 1750, il faut dire que, avant la dernière grande épreuve, là, Marie-Louise Trichet part à cheval. Elle fait un dernier voyage. Elle parcourt, malgré la fatigue, elle parcourt le Poitou, l'Aunis et la Saintonge. En comptant la maison mère, là, il existe alors 22 maisons des filles de la sagesse, 17 maisons de charité, 3 hôpitaux généraux, puis la maison des pénitentes, là, à Poitiers. Elle en visitera 18. Imaginez, c'était des voyages épouvantables. Mais elle ne pouvait pas éclure les plus éloignés dans son itinéraire. C'était pas possible. Alors la mère Trichet, comme on l'appelle, veut vivre le temps d'un adieu avec chacune de ses filles. Elle est soucieuse de leur communiquer, plus par sa présence que par ses paroles, un testament de vie. Elle cherche à établir entre elles un lien spirituel étroit. Elle est cimentée dans l'unité. Elle est centrée sur une recherche constante, insatiable, de la sagesse, qui est Jésus lui-même. Alors, entre 1750 et 1756, il y a des fondations de toutes sortes. Puis en 58, Marie-Louise Trichet vit une dernière joie, c'est l'entrée de ses sœurs dans l'hôpital des Incurables de Poitiers, fondé par le père de Montfort. La supérieure va suivre de près les progrès de l'expansion de sa congrégation. Donc, la grande épreuve là, qui se situe juste avant ça, entre 1755 et 57, pour la première fois, Marie-Louise Trichet réalise que la réciprocité de confiance vécue avec ses filles lui échappe tout à coup. Puis là, il y a une cabale qui se fait contre elle. Il y a des sœurs qui voient pas d'autre moyen pour arriver à leur fin que de monter toute cette cabale pour essayer d'évincer Marie-Louise Trichet. À cette époque, il y a un père Bénard qui vient d'être désigné comme troisième supérieur de des Montfortins, la compagnie de Marie. Il relate que l'attitude de Marie-Louise fut signe d'une grandeur d'âme qui laisse pensif. D'ailleurs, après sa mort, il va dire à ses filles, « Vous perdez une copie vivante de Jésus-Christ, la sagesse éternelle. » En octobre 1758, une retraite annuelle des sœurs à la maison mère. Il y a les jeunes aînés, un peu tout le monde. Elles entourent Marie-Louise de Jésus, comme elle s'appelle maintenant, près de la tombe du père de Montfort. Plusieurs d'entre elles portent dans leur mémoire le poids d'une vie, une vie qui s'offre dans le recueillement et la prière. D'autres sont pleines d'espérance, puis elles prient vraiment pour cette congrégation naissante. Et au cours de la retraite, le père Bénard présente les constitutions de la sagesse auxquelles ont travaillé Mère Trichet puis ses filles, les plus proches. Il s'agit de transmettre une tradition vivante à celles qui vont suivre. Il y a une impression de solennité qui plane sur la petite assemblée. C'est inoubliable. Le 14 décembre 1758, Marie-Louise Trichet fait une chute, se casse l'épaule droite. Elle accueille cet événement comme le signal. Elle se prépare à la mort. Elle se dégage de ses responsabilités. Alors elle vit dans l'intimité de Jésus-Christ, sagesse éternelle. Elle lui parle sans cesse. Elle parle sans cesse de lui. L'année suivante, le 21 avril 1759, en sortant de la chapelle, après la prière du soir, elle est secouée d'un grand frisson. Elle ressent une douleur intense aux côtés. Elle fait appeler la sœur qu'elle a nommée pour lui succéder, sœur Florence. Elle lui dit avec simplicité, « Ma fille, c'est le coup de la mort. » Oui, c'est la mort. Et sœur Florence ajoute, « Elle m'envoya coucher sans réplique. » Elle est prête à mourir dans la simplicité. Deux jours plus tard, le 23 avril, elle demande à se confesser, puis elle pleure ses péchés. Elle sanglote. Puis elle reçoit la communion en tressaillant de joie. Puis elle demeure longtemps seule dans le silence. Le 25 avril 1759, Marie-Louise Trichet fait écrire son testament par une de ses filles et elle demande à un père, le père Croissant, de le lire à haute voix aux 7 religieuses professes qui forment la communauté des filles de la sagesse à Saint-Laurent, sur Sèvre. L'une après l'autre, elles apposent leur signature. Puis elles authentifient comme ça, pour les générations futures, les dernières volontés de Marie-Louise de Jésus. Le 28 avril 1759, elle demande à voir une demoiselle qui rend visite aux pauvres de Saint-Laurent, puis elle lui adresse une prière. N'oubliez jamais les pauvres. Toute la journée, elle prie des paroles de louange à Marie, et avec Marie aussi. Alors elle récite le Magnificat, le Salve Regina, le Regina Laetare, Alléluia. Elle va répéter souvent ce mot Alléluia. Elle dit à une sœur qui est là que ce mot Alléluia, ça veut dire réjouissez-vous en Dieu. Réjouissez-vous en Dieu. Puis fixant les yeux sur son crucifié, elle murmure, mon Seigneur et mon Dieu, ce sont les paroles de saint Thomas quand il s'apprête à toucher les plaies de Jésus ressuscité. Et c'est l'heure de l'Angélus du soir. Marie-Louise Trichet s'en va, puis elle laisse derrière elle, on pourrait dire, un immense sillage de lumière. Bien oui, un immense sillage de lumière. Et alors, on peut dire que l'itinéraire qui a conduit Marie-Louise Trichet à l'hôpital de Poitiers, puis vers tant d'autres fondations, qu'elle l'a éloignée à jamais du cloître. Elle y avait pensé au cloître. Mais l'ardeur de son amour, sa grande rigueur spirituelle ont trouvé leur chemin, qui a permis à tout son être de devenir, on pourrait dire, un espace pour Dieu, un espace pour que l'amour habite en elle, Dieu qui est amour. Son attrait pour le recueillement s'est accommodé de cette vie très active, et ça s'est logé au-dedans. D'ailleurs, voici une de ses plus belles prières. C'est tout court, c'est tout petit. Mon aimable Jésus, faites-moi la grâce de mettre en pratique ce que vous avez la bonté de m'inspirer, qui est de travailler à faire au-dedans de moi un oratoire pour vous loger, ô cher sauveur de mon âme. Elle donne de ce projet spirituel, d'ailleurs, une description imagée, dans le style assez étrange du XVIIe siècle. L'humilité qui l'a habité l'a mené à l'intimité avec son Dieu. Une intimité qui a pu être vécue dans le feu de l'action et qui a trouvé sa nourriture. Depuis 1703, il y a eu plus de 16 000 femmes qui se sont consacrées à la sagesse, le Verbe incarné, qui ont été des filles de la sagesse, engagées. Aujourd'hui, elles sont au nombre d'environ 2900 à poursuivre cette aventure spirituelle. Elles font évidemment une relecture de cette inspiration première au début, il y a presque 300 ans. Et elle cherche à assimiler la responsabilité d'être des porteuses de cette intuition évangélique de Grignon de Montfort, telle que ça a été vécu par Marie-Louise Trichet. Ce charisme s'est incarné avec des accents divers. D'ailleurs, à partir de 1846, la congrégation s'est répandue à travers le monde. Elle est aujourd'hui présente sur tous les continents. Elle est partout. Au Québec, on la retrouve sur la rue Lescarbot, au 6444 rue Lescarbot à Montréal. On peut téléphoner en composant le 252-85-55. 252-85-55 chez les filles de la sagesse, ici à Montréal. Et ceci termine cette vie de la bienheureuse Marie-Louise Trichet, fondatrice des filles de la sagesse.